Bonjour à chacun. Nous allons lire les textes qui serviront de support pour la prédication de Sylvain. Tout d'abord, dans le psaume 22, les six premiers versets. Donc, c'est le psaume que Jésus a cité sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai pas de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes est le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel te sauvera et le délivrera puisqu'il l'aime.
Le deuxième texte se trouve dans le prophète Ésaïe au chapitre 43, les six premiers versets. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen.
Voilà, bonjour à chacun. On est encore un petit peu au début de l'année, mais bon, pour moi, je suis bien déjà dans le feu de l'action. Je pense que pour vous aussi. Ça va plus être une espèce de questionnement que j'aimerais partager aujourd'hui que des réponses bien construites. C'est pas non plus, je prétends pas faire une analyse de ces deux textes qu'on a lus, qui sont juste un peu une introduction à cette question. Question qui m'a titillé après une petite discussion que j'ai eue mon dernier jour d'école, juste avant Noël. On avait un apéro de fin d'année après les examens oraux, enfin pas les examens oraux, les défenses de travaux de maturité des élèves. Et puis il se trouve qu'il y avait là le doyen qui discutait avec la jeune bibliothécaire, et puis la discussion tournait sur à un moment donné, elle disait qu'elle était prête à croire à l'astrologie, mais pas en Dieu. Alors bon, déjà, c'est une chose qui m'intrigue, parce que c'est vrai que dès le début de la Bible, on est invité à croire en Dieu plutôt qu'à l'astrologie, en particulier quand on voit que le soleil est créé juste au troisième jour, sans même mentionner son nom. Hein, cette culture ambiante qui cherchait un sens dans les astres, la Bible prend le contre-pied pour nous faire chercher le sens de la vie vers notre Créateur. Bon, mais c'est... Pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est comme ça. Mais ensuite, on est parti un petit peu sur la question de Dieu. Et puis, à un moment donné, ce collègue qui est prof de biologie, mais qui n'est pas croyant, mais qui se pose des questions, me dit « Bon, dans un sens, je serais prêt à croire en Dieu. Mais toi, comment est-ce que tu imagines que Dieu intervient ?» Et puis il me dit, mais si Dieu existe, il doit intervenir, ça devrait se voir. Puis il ajoutait, pour en somme, comme support à son éventuelle croyance en Dieu, que tout autour de lui, il voit beaucoup de cohérence. Alors c'est vrai que moi, j'étais très embarrassé pour répondre à cette question. Est-ce que ça se voit tellement que ça, l'intervention de Dieu ? Puis c'est vrai que j'essayais de dire que ça se situait ailleurs que simplement dans la matérialité de l'existence et des choses. qui avait un autre ordre de réalité. Puis il me fait, mais il n'y a qu'une sorte de réalité. Puis je continuais en essayant d'expliquer que pour moi, Dieu agit, c'est pas seulement une espèce de créateur extérieur, il est présent parce que je crois qu'il soutient la création. Et pas seulement un créateur ou quelqu'un qui interviendrait à des moments précis de la vie ou de la création. Et puis il m'a sorti, mais en somme, toi, tu as une vision panthéiste. Alors bon, j'ai pas trouvé toutes les réponses, hein, simplement, mais ça m'a fait réfléchir. Et puis je voulais partager un petit peu cette réflexion. Et c'est vrai que c'est ce collègue est doyen, il sait que je suis chrétien. Puis d'ailleurs, il m'a une fois convoqué dans son bureau au sujet de ces fameux travaux de maturité pour lesquels je dois donner des sujets et suivre des élèves. Parce que j'avais proposé un sujet de maturité qui tournait autour, qui parlait des frontières de la biologie. Hein, donc, qui essayait d'aborder les questions qu'on ne comprend pas dans la théorie de l'évolution. Et puis, dans le sujet que je proposais, j'avais même fait allusion à la question du intelligent design, hein, cette controverse qui existe maintenant avec des gens qui proposent que il y a un dessin intelligent qui peut se voir dans le développement extraordinaire de la vie. Et puis il avait plein de craintes à ce sujet, parce qu'il avait l'impression que là on commençait à sortir d'un cadre scientifique, d'aborder des questions peut-être d'ordre religieux. C'est quand même un peu dangereux. Il m'a dit, je ne sais pas combien de fois au cours de l'entretien, qu'il trouvait que c'était un sujet délicat. Il s'est trouvé que c'était intéressant, il n'était pas contre. Et puis, en discutant un peu plus loin avec lui, sa crainte, c'était que je sois une espèce de crypto-créationniste qui professe ces théories qui, à partir de convictions religieuses, s'opposent aux théories scientifiques, et puis que j'influence les élèves. Puis, ce n'est pas du tout mon cas, hein, mais il avait cette crainte. Il avait même parlé avec le directeur. Puis finalement, on a simplement supprimé cette phrase qui lui faisait un petit peu peur à la fin de ma description de sujet. Et puis bon, moi, ça me dérangeait. Et puis de toute manière, personne n'a pris ce sujet, donc la question est réglée. Mais ça m'a intrigué à quel point c'était un sujet sensible, et le fait que j'ai abordé ça dans un sujet pouvait proposer des craintes. Et puis c'est vrai que c'est aussi pour moi un peu paradoxe, parce que je me trouve là face à des collègues pour lesquels une toute petite chose les fait craindre que je sois un méchant fondamentaliste. Et puis c'est vrai que quand je suis dans les églises, je pense que c'est plutôt l'inverse. Alors voilà. Alors je reviens à cette question qui m'est posée et qui nous est posée. Est-ce que Dieu intervient? Et s'il intervient, comment est-ce qu'il intervient et à quel niveau? Alors, quelques réflexions que je vais donner vont tourner autour de deux thèmes fondamentaux bibliques. Dieu, il est à la fois créateur, il est rédempteur. Alors on ne va naturellement pas faire le tour du sujet. Il faudrait ajouter qu'il est sauveur, mais ok, ça je ne vais pas le prendre aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est créateur? C'est intéressant de voir, je ne sais pas comment vous vous représentez, vous, un Dieu créateur. Est-ce que c'est quelque chose que Dieu a fait au début, hein, une fois pour toutes? Est-ce qu'il a créé une espèce d'horloge? Enfin, c'est mieux qu'une horloge, mais enfin, vous savez, les Suisses, ils font des horloges avec des complications. Ils mettent, je ne sais pas combien de temps, mais ils mettent des mois, je crois, pour faire une montre avec des complications. Alors, est-ce que Dieu, c'est un horloger qui a fait une montre avec des extraordinaires complications, merveilleuses, mais une fois qu'elle est faite, elle tourne toute seule? Ou bien, alors, est-ce que Dieu serait une espèce de cause première ou d'explication, de l'existence et de la cohérence de l'univers. Et ça, c'est une conception d'un Dieu créateur qui est très présent dans un certain nombre de scientifiques aujourd'hui. Je pense en particulier à un astrophysicien qui explique très bien cette position-là, qui s'appelle Trinh Xuan Thuan. C'est un Vietnamien qui étudie donc l'origine de l'univers, la théorie du Big Bang, qui explique que l'univers vient d'un point très concentré il y a un peu moins de 15 milliards d'années. Parce que selon lui, il y a des constantes physiques, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il y a la vitesse de la lumière, on sait que la vitesse de la lumière a une certaine vitesse, il y a l'électron a une certaine masse, il y a un certain nombre de chiffres comme ça qui n'ont aucune explication en soi, mais le fait est que si vous faites des calculs, que vous changez un tout petit peu la valeur d'un de ces nombres, vous essayez de voir ce qui se passe depuis le début de l'univers avec les lois de la physique, puis il ne se passe rien. Il ne reste que de la bouillie, si vous voulez. Il a fallu que ces valeurs soient ultra précises pour qu'il puisse se développer des étoiles, plusieurs générations d'étoiles, puis des terres, ou en tout cas une terre qui ait les paramètres de la nôtre, et puis que finalement nous, on puisse exister. C'est extrêmement précis, les réglages. Et ça fait imaginer ces scientifiques qu'il doit y avoir une explication, une intelligence, voilà. Mais ça reste un Dieu très loin et impersonnel. Je vais quand même peut-être lire juste deux, trois lignes de ce livre. Face à ce dilemme, dit cet astrophysicien, l'homme de science, malgré toutes ses connaissances, se trouve tout aussi dépourvu, démuni que son voisin. La science n'est d'aucune utilité quand il est question de foi. Le scientifique doit mesurer ses risques et se jeter à l'eau. Il doit parier comme Pascal. Pour ma part, je suis prêt à parier sur l'existence d'un être suprême. Alors voilà, quelque part, il croit un être suprême, mais qui reste totalement impersonnel. C'est peut-être en phase avec son arrière-plan bouddhiste. Mais c'est vrai que, dans un certain sens, la science amène beaucoup de gens à cette idée qu'il y a un être suprême. Mais on est encore loin du Dieu personnel qui nous est révélé dans la Bible. Parce que selon la vision biblique, Dieu n'est pas seulement quelqu'un qui aurait lancé l'univers au début, ni quelqu'un qui serait une explication de la cohérence de l'univers. Dieu, il est à la fois distinct de sa création, mais présent dans la création pour la soutenir du début jusqu'à la fin. Et je crois effectivement, c'est peut-être pour ça que mon collègue pensait que j'étais panthéiste, mais je crois que c'est une vision biblique. Et quelqu'un me... Ah oui, c'est Jacques-André, il me disait que Calvin s'est déjà fait soupçonner de panthéisme parce qu'il expliquait que Dieu soutient l'univers dans son entier. Mais je crois que c'est très juste dans la Bible. Mais il y a un autre niveau. Et finalement, je me retrouve très bien avec la réponse des enfants ce matin. Dieu est dans le ciel. Alors bon, le ciel, c'est pas le ciel où il y a la lune et les étoiles. On ne peut plus comprendre le ciel comme ça aujourd'hui. Mais Dieu est quelque part, effectivement, un Dieu qui est au-delà ni de notre espace-temps dans lequel on est et qui soutient l'univers, mais en même temps il est proche de nous. On a dit il est dans notre cœur. C'est vrai que c'est très vrai. Moi je crois qu'il est la source de notre personne, du fait qu'on est des êtres humains, du fait qu'on est des êtres en relation, du fait qu'on est capable de s'aimer les uns les autres. Et je pense qu'il faudrait ajouter que Dieu, c'est sûr, Dieu vient habiter dans notre cœur quand on se donne à lui, qu'on reçoit le Christ. Mais je crois que Dieu est aussi quelque part dans le cœur de tout être humain. Il y a une marque de Dieu présente dans tout être humain, quelle que soit sa nationalité, sa religion, ses convictions, il y a une présence de Dieu là. Et je crois que Dieu est à la source de notre capacité d'aimer. Alors Dieu créateur et Dieu rédempteur. Un Dieu qui sauve, qui guérit, qui pardonne. Mais là encore, comment est-ce qu'il intervient? Est-ce qu'il fait de temps en temps il se manifeste en faisant quelques entorses aux lois de la nature qui fonctionnent normalement si bien. Ça voudrait dire que donc les interventions de Dieu, c'est quand il y a quelque chose d'un peu surnaturel. On peut voir les choses comme ça. Moi, j'y vois un peu deux objections. L'une, c'est que pour moi, des lois de la nature, ce n'est pas quelque chose qui existe en soi. C'est quelque chose de construit pour essayer de comprendre la cohérence de l'univers. Et je vois justement une trace de Dieu dans cette cohérence de l'univers. Dans ce sens-là, des vraies lois fondamentales ne peuvent pas tellement être violées. Et puis l'autre objection, c'est de se dire, si Dieu agit quand il y a des miracles surnaturels qu'on voit, alors ça voudrait dire qu'on risquerait d'imaginer que finalement dans la vie quotidienne, il n'est pas tellement présent. Il est juste là de temps en temps quand il y a un petit miracle. Alors je crois que c'est, effectivement, moi je crois que Dieu est présent beaucoup plus que quand il y a quelque chose d'extraordinaire. Il peut se manifester dans des choses extraordinaires, dans des guérisons, dans l'inattendu. Mais il est, je pense, beaucoup plus souvent présent dans le cours naturel des choses. Mais c'est vrai qu'on fait l'expérience. On fait les expériences de Dieu agissant dans des situations. On peut penser à des circonstances où on a évité un accident, ou bien où on a été guéri d'une maladie, ou bien où on a rencontré quelqu'un. C'est vrai que pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, je discutais de quelqu'un, justement dimanche dernier quand j'étais à Cologny, avec ce même message, discutais de Marc Lebreuil, que vous connaissez, enfin, que certains d'entre vous connaissaient. Ça fait longtemps que je n'en avais pas entendu parler. Et puis Madeleine André me parlait de ses projets missionnaires. Puis il se trouve que cette semaine, par le fait que j'ai bêtement oublié que j'avais parqué ma voiture à Nyon, je suis venu jusqu'à Genève, j'ai dû retourner dans l'autre sens, et sur qui je tombe? Sur Marc Lebreuil dans le train. Et c'est vrai qu'on en avait parlé dimanche, j'avais envie justement de lui parler de quelque chose à partir de ce qu'on avait dit dimanche. Je me suis dit, mais c'est peut-être pas un hasard, voilà. Mais je peux le raconter à vous, je vais pas en faire une preuve de l'existence de Dieu pour le collègue avec qui je discutais. Hein. Voilà, c'est des petits signes que Dieu peut-être nous fait, mais ça reste subjectif, on ne peut pas en faire des théories. Et puis c'est vrai que les guérisons, ça se produit, ça arrive, mais il y a aussi des non-guérisons. Qu'est-ce qu'on en fait ? Si je pense à Jean-Marc Strelli qui a échappé au tsunami, est-ce qu'il allait être reconnaissant d'avoir échappé? Est-ce qu'il allait être catastrophé parce qu'il a perdu sa sœur? C'est difficile, ces situations. Et parfois, celui qui échappe, en plus, il commence à avoir mauvaise conscience d'avoir échappé. Mais je crois qu'on peut être reconnaissant. On peut être reconnaissant pour soi. Il vaut mieux être reconnaissant à Dieu que de se sentir culpabilisé. Mais voilà, l'intervention de Dieu, ce n'est pas tous les jours quelque chose de visible. Et on est souvent ébranlé, ou bien peut-être, qu'est-ce qu'il faut dire, découragé par une impression du silence de Dieu. On parle des prières non exaucées depuis longtemps, ou des moments dans notre vie où finalement on ne sent pas tellement la présence de Dieu. Et ce que je trouve intéressant, c'est pour ça que j'avais fait lire ce texte du psaume 22, c'est qu'il y a ce dialogue constant dans la Bible entre ces textes, comme celui que nous a lu Yannick au début du culte, hein, où Dieu est celui qui répond. Si je prenais que ces textes, je me dirais, mais Dieu, il répond toujours. Eh oui. Et puis dans le psaume 22, le psalmiste a cette espèce de dialogue avec Dieu. Et c'est vrai que plus loin dans le psaume, il y a un verset qui dit « Tu m'as répondu », mais il y a quand même toute une partie du psaume, et c'est celui-là auquel Jésus fait référence, où il dit « Tu ne me réponds pas ». Il n'y a rien qui se passe. Et il y a, dans ce texte, je vais juste le reprendre, Oui. Le jour, je t'appelle au secours, mais tu ne réponds pas, et la nuit encore, mais sans recevoir d'apaisement. Pourtant, tu sièges sur ton trône, etc. Pourtant, autrefois, hein, d'après les textes qu'on a lus, les gens, ils t'ont appelé au secours, nos ancêtres, et tu les as délivrés. Mais moi, rien. Et donc, le psalmiste, il a un peu cette nostalgie du Dieu dont on lui a parlé et qui répondait. Et voilà qu'au cœur de notre foi, il y a ce moment que Jésus vit avant la crucifixion, où il se réfère à ce psaume, il se réfère à cette situation d'une non-réponse de Dieu. C'est vrai, il y a la résurrection qui donne tout son sens à notre foi, mais il y a aussi cette espérance partagée, cette expérience partagée du silence de Dieu. Alors, j'ai pas de réponse à ça, mais je crois que c'est des questions qu'il est bon de se poser, de partager ensemble, de prier ensemble. Et je reprends ce texte d'Ésaïe 43, qui montre que Dieu ne nous promet pas une vie facile, mais il promet une présence qu'on ne voit pas forcément, mais qui reste réelle. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Il n'est pas question qu'il n'y ait pas d'eau à traverser ni de feu, mais Dieu nous permet d'en sortir. Et souvent nous rêvons que les circonstances changent, et puis nous prions que les circonstances changent et elles ne changent pas. C'est des prières restent inexaucées. D'après ce texte d'Ésaïe, Dieu nous promet sa présence intérieure qui nous permet de tenir debout. Dieu n'est pas comme un marabout. Et les marabouts, ils vous promettent qu'ils vont faire revenir les amours perdus ou faire d'autres choses. C'est-à-dire que le marabout, il va pouvoir changer l'autre pour que l'autre devienne comme j'ai envie qu'il soit. Dieu répond pas à ce genre de prière. Puis des fois, on aimerait bien quand même. Enfin, en tout cas, moi. Dieu, c'est en nous qui veut agir, et puis c'est pas à nous de demander de changer finalement les circonstances. Alors, je pense que ça serait bon peut-être qu'on prenne tout à l'heure un petit moment de prière où on pourra repenser au temps qui est derrière nous et puis à celui qui est devant nous. Je pense qu'on pourrait derrière nous essayer de se souvenir où on a vu des traces de Dieu qui est présent malgré tout. C'est vrai que moi, quand je reviens un peu en arrière, c'est il y a juste à peu près 10 ans que j'ai vécu un tsunami intérieur parce que mon épouse m'annonçait qu'elle allait me quitter. C'est vrai que c'est le ciel qui me tombait sur la tête. Et j'en reparlais l'automne dernier avec une personne rencontrée lors de mon voyage au Laos. C'est quelqu'un que j'ai pas revu depuis longtemps, chez qui on était quand on a fait en famille notre voyage au Laos avec mes deux fils en 1990. Et puis il me disait, mais comment on survit à une épreuve comme ça? Et puis je lui ai dit que je ne savais pas. Sinon que Dieu était présent et puis qu'il m'a donné les forces. Hein, je pense que c'est aussi beaucoup par les autres, finalement, par la solidarité des autres. Il m'est déjà arrivé de dire ça. Je pense celle que j'ai vécue dans l'église, celle que j'ai vécue avec les pasteurs asiatiques, par exemple, ça a représenté, je crois, quelque chose de très fort pour que trouver les forces de tenir. Je pense aussi un peu un ébranlement dans mon travail quand j'ai dû changer un petit peu de retrouver un autre travail que ce que je faisais avant dans la mission depuis très longtemps. Et puis là, je peux aussi dire que la reconnaissance à Dieu pour le fait d'avoir retrouvé le poste que j'ai maintenant, c'est pas évident à l'âge de 60 ans qu'on trouve quelque chose. J'ai postulé, Il s'est trouvé dans les gens qui ont examiné ma postulation de que quelqu'un me connaissait parce qu'il a été juste aux études, juste l'année après moi, il m'avait vu fonctionner comme assistant. Ben, je me dis, tiens, voilà, c'est peut-être des circonstances qui ont aidé, c'est peut-être un petit coup de pouce du Seigneur. C'est aussi des petites choses où on peut reconnaître les traces de Dieu. Et puis pour l'année qui vient, ben, je crois qu'on peut essayer de s'en remettre à Dieu, peut-être lui remettre nos prières non exaucées, nos attentes. Et puis, je pense qu'en plus de ça, on peut être appelé finalement à être nous une présence de Dieu pour les autres. Parce que je crois que c'est ça, dans la communauté, on est chacun une présence de Dieu pour autrui. Et puis on l'est aussi, je pense, dans nos lieux de travail. Donc on n'est pas seulement appelé à chercher si Dieu intervient, mais finalement à être nous, dans notre vie, dans notre témoignage, un canal par lequel Dieu se manifeste. Donc on peut se demander en quoi, voilà, en quoi on peut se mettre en route intérieurement. J'aimerais peut-être juste quand même lire un... Oui, juste trois strophes d'une prière de Bonnefère. Je suis tombé dessus ce matin, par hasard, surfant sur Internet. C'est dans un livre qui vient de sortir, semble-t-il. Et c'est une prière que faisait Bonnefère alors qu'il était en prison et qu'il allait être pendu pour son engagement contre le nazisme. Ainsi lit-on dans la dernière strophe d'un des poèmes publiés, « Merveilleusement gardé par des forces bienveillantes, nous attendons sans crainte ce qui adviendra. Dieu est auprès de nous soir et matin, et sans nul doute, chaque lendemain. »